La ponctualité avec laquelle vous êtes revenu dans cette salle me frappe d'admiration. On va pouvoir recommencer à l'heure prévue, 14h. C'est quand même rarissime dans les colloques, donc bravo à tous. Et pour poursuivre ces échanges autour des histoires croisées entre le Collège de France et la Bibliothèque nationale, nous allons maintenant parler des textes réglementaires sous le Second Empire, ceux du Collège et ceux de la Bibliothèque impériale. Et je donne la parole, dans un premier temps, à Cécile Fabrice, conservateur aux Archives nationales, sur un empire que je ne détaillerai pas dans toutes ces sous-royaumes, mais en tout cas qui est en charge en particulier des fonds relatifs à l'éducation et à la recherche. Je vous en prie.
Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Je vais joindre ma parole à celle des collègues de la Bibliothèque nationale ce matin pour remercier les organisateurs de leur invitation et exprimer toute mon humilité et l'honneur qui m'est fait de me donner la parole aujourd'hui sur un sujet qu'il va être potentiellement un peu difficile de rendre dynamique après le déjeuner, les textes réglementaires, matière qui peut sembler un peu aride au premier abord, mais pour lequel, bien entendu, nous allons revenir sur les éléments de contexte et d'explication et l'histoire de la rédaction du nouveau règlement du Collège de France en 1857. Je vous ai mis une image du site des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, parce que c'est là que l'on trouve une partie des fonds archivistiques qui permettent de faire l'histoire du Collège de France, puisque le Collège de France, comme les autres institutions d'enseignement et de recherche, se trouve sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique au XIXe, et donc un certain nombre de dossiers qui tiennent à la tutelle du ministère sur l'établissement sont conservés aux Archives nationales. Les deux références principalement qui nous occuperont aujourd'hui sont le F17 13550 et 13551, deux articles qui sont consacrés au règlement précisément et également au CHER. Alors, pour revenir sur les éléments de contexte, tout d'abord le cadre réglementaire préexistant au Collège de France, puisque M. Compagnon le rappelait ce matin, le Collège a survécu à la Révolution. Et ensuite, il fait partie, comme l'ensemble du système éducatif, de la loi du 11 Floréal-Andis, au 1er mai 1802, qui réorganise l'ensemble des différents niveaux de l'enseignement. Alors, c'est une loi qui s'occupe des écoles primaires, qui s'occupe de l'enseignement secondaire, avec notamment les lycées, qui sont établis par le biais de cette loi, mais qui s'inquiète également des écoles spéciales, au nombre desquelles compte le Collège de France, et de la nomination au CHER du Collège de France, pour lesquels il est prévu qu'il y aura trois candidats présentés au premier consul. L'un sera présenté par l'Institut, un autre par les inspecteurs des études, et enfin le dernier par les professeurs. Et en fait, cet élément va être le sujet qui va nous occuper pendant toute cette présentation. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le Collège de France, le règlement de 1857 et la question de l'autonomie, puisque le sujet principal des réorganisations, et notamment de celle de 1857, c'est la question des nominations aux chaires, aussi bien les chaires des titulaires que les postes de suppléants, qui déterminent la question, bien entendu, de l'identité du collège, puisque le collège est constitué de ces hommes, de ces professeurs, et que tout le jeu entre le collège et sa tutelle s'établit autour de la réglementation du pourvoiement des chaires et des postes. Et donc on voit en 1802 trois présentations au consul, et c'est bien le consul qui choisit, et les professeurs ont l'une des présentations. En 1822, une légère modification, mais qui n'a que peu de poids sur le mécanisme, c'est que ce ne sont plus les inspecteurs des études qui sont responsables de la troisième nomination, mais le grand maître de l'université, puisque l'université impériale est établie en 1808, donc après cette loi de 1802 fondatrice. Et en 1822, le rôle du grand maître est déterminé, et c'est désormais lui qui pourra présenter un troisième candidat pour les chaires de professeur au collège. La date suivante qui nous intéresse est celle, bien entendu, du règlement du collège de 1829, puisque en 1857, la question va être de savoir quelle clause du règlement préexistant est maintenue et quelle clause est modifiée. Et on voit, en 1829, la structure du règlement est relativement simple. Les sujets principaux, ce sont les cours, les pourvoiements précisément de chaires, de suppléants, de remplaçants, et puis la question des assemblées, les logements étant un sujet relativement annexe dans le règlement. Et la caractéristique principale de ce règlement de 1829, c'est de donner une autorité extrêmement large à l'Assemblée des professeurs, qui ont la main sur énormément de décisions qui concernent les cours, la vie du collège, sans en référer à d'autres autorités que la leur. On peut ensuite, mais là encore, cela relève presque du détail, évoquer un arrêté de 1849 par lequel, là, on détermine le choix de l'administrateur, qui se fait désormais parmi trois candidats, ce qui modifie un peu la donne, mais c'est bien le choix de l'administrateur et non pas des professeurs. Pour les professeurs, on reste sur la disposition antérieure. Alors, au-delà de ce contexte réglementaire, le contexte de la vie du collège et la question, je l'évoquais précédemment, de l'identité et de l'autonomie qui se joue autour de la question des chaires. Alors ici, vous avez quelques figures qui ne sont que des exemples de ce qui se joue dans la décennie précédente, donc dans les années 1840, sur cette question des prérogatives de l'Assemblée pour le choix des professeurs. Vous avez à gauche Victor Coste, éminent biologiste, pour lequel le ministre a autorisé la tenue d'un cours d'ovologie et d'embryologie au collège en 1842. Et c'est l'occasion pour l'Assemblée des professeurs de marquer sa désapprobation sur cette initiative du ministre, puisqu'il ne saurait y avoir de cours autorisés au collège qui ne relèvent pas du choix de l'Assemblée pour les titulaires ou les suppléants, puisque là, ce n'est pas un professeur du collège, c'est un cours, et que donc le choix a échappé à l'Assemblée. Pour en sortir, le ministre va faire, là encore, selon le dispositif qu'évoquait Antoine Compagnon ce matin, on va créer une nouvelle chaire en 1844. Et donc là, le ministre nomme Victor Coste titulaire de cette chaire, l'Assemblée n'ayant pas voix au chapitre, d'une certaine façon, puisqu'il ne s'agit pas de remplacer une chaire, mais bien de nommer. Dans les années 1840, on a également un autre épisode marquant sur la question de l'autonomie de l'Assemblée et surtout de son positionnement vis-à-vis du ministère. C'est la question des cours de Michelet, que l'on voit au milieu, et d'Edgar Quinet, à droite, puisque leurs cours entraînent une perturbation certaine, un grand succès en nombre d'auditeurs, mais une perturbation certaine et des polémiques autour des positions qu'ils prennent vis-à-vis de la religion et de la politique, au point que le ministre de l'Éducation est interpellé à l'Assemblée pour faire cesser ce désordre, et la réponse du ministre va dans le sens de la reconnaissance de l'autonomie de l'Assemblée des professeurs. Il dit « je ne peux pas intervenir, tout ce que je peux faire, c'est saisir l'Assemblée pour leur demander de s'occuper du problème, d'une certaine façon ». L'Assemblée, effectivement, se réunit et accepte les explications données par Michelet et Quinet, qui peuvent donc poursuivre leur cours sans être plus avant réprimandés, si ce n'est bien entendu que la situation change du tout au tout avec le coup d'État de 1851 et l'arrivée du pouvoir impérial, puisque dès le début 1852, Michelet et Quinet sont révoqués de leur chaire au Collège de France. Dernier élément de la décennie 1840, c'est le projet de création d'une école nationale d'administration auprès du Collège de France. Et là, c'est la volonté de mettre en place une formation préalable aux branches de l'administration qui n'en avaient pas jusqu'à présent. Et cette volonté passe par la création, par le gouvernement provisoire, hein, là on est en 1848, par la création d'une école nationale d'administration pour laquelle ce sont les chaires du Collège de France qui servent de support, avec la création de... je vais me mélanger entre la création et les suppressions. C'est la suppression de 5 chaires et la création de 11 nouvelles chaires, une 12e étant non pas créée mais recréée, la chaire de mécanique qu'on a évoquée là aussi ce matin. Et là aussi, on voit bien que la question des chaires et de l'identité du collège se pose, puisque par cette création et par ce remaniement quasiment complet de la structure même du collège, la question de son identité se pose, mais cette initiative est de courte durée, puisque dès 1849, cette École nationale d'administration, première version d'une certaine façon, est supprimée. Et la situation revient à ce qu'elle était précédemment. Les chaires qui avaient été supprimées sont rétablies et l'Assemblée des professeurs peut reprendre le cours de ses travaux habituels. Alors, c'est dans ce contexte qu'il faut aussi évoquer la question du contexte plus large de l'instruction publique et de l'enseignement supérieur. Alors là, à cheval, hein, sur les deux régimes politiques, mais parce que le mouvement est le même. En réalité, là, on a toute une succession de textes qui vont tous dans le même sens d'une centralisation de l'autorité, d'une reprise en main, d'une certaine façon, du corps enseignant, notamment le personnel, mais pas uniquement, par le ministère. avec alors la première, la loi Parieux. Il s'agit, entre autres choses, hein, mais il s'agit de faciliter le fait de pouvoir renvoyer des instituteurs. La loi Fallou, je n'y reviens pas, son apport principal est la reconnaissance de l'enseignement privé. C'est peu de rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. En revanche, le décret de 1851 porte que la nomination des directeurs des écoles normales primaires relève du ministre. Donc là aussi, on est dans une démarche de reprise en main des nominations par le biais de l'autorité ministérielle. Et c'est particulièrement marqué dans le décret du 9 mars 1852, qui pèse d'un poids très lourd dans le nouveau règlement de 1857, puisque là, on voit en préambule qu'il s'agit de rétablir l'ordre et la hiérarchie dans le corps enseignant. Et les principes, la loi de 1854, c'est une loi globale sur l'enseignement, il était important de la citer, mais là encore, on est un peu à côté du sujet. Dans le décret-loi de 1852, je vous ai mis les deux premiers chapitres, puisque le Collège de France est explicitement nommé et prévu, c'est bien le président de la République qui nomme les professeurs des facultés. Et alors, selon des principes voilà, qui figurent dans le deuxième article, en cas de vacances, les professeurs nomment deux candidats. Donc vous voyez que depuis 1802, on a un peu changé. On était à un candidat, maintenant on est à deux. La classe correspondante de l'Institut en présente également deux. Et enfin, et c'est là un point à souligner particulièrement, le ministre peut en outre présenter un candidat qu'il choisit donc librement, indépendamment de la présentation des professeurs ou de la présentation par l'Institut. Alors, c'est dans ce contexte qu'intervient le projet de révision du règlement de 1829. Et là, tout part, alors pas tout, parce qu'on a vu, il y a quand même un contexte général de renversement de la façon dont l'autorité ministérielle envisage ses rapports avec les établissements, mais le départ anecdotique, c'est la question de l'attribution d'un logement. En fait, en 1856, un logement a été attribué par le ministre sans en référer à l'Assemblée. Or, le règlement de 1829 prévoyait que c'est bien l'Assemblée des professeurs qui dispose des logements. Et donc, l'Assemblée des professeurs proteste et exprime son désaccord au fait que le règlement de 1829 ne soit pas respecté par le ministre. Et là, c'est dans les... Alors, sur la teneur des assemblées des professeurs, on peut bien évidemment suivre cela sur Salamandre, le site... des archives et bibliothèques du collège qu'on a vu tout à l'heure, avec les comptes rendus des assemblées, les registres de procès-verbaux des assemblées, qui sont tous numérisés et qui offrent une lecture parfois répétitive de simplement le fonctionnement habituel du collège, et parfois permettent de voir justement les quelques soubresauts qui se présentent. Mais là, sur cette question-là, l'Assemblée des professeurs exprime son désaccord avec la position du ministre et le fait qu'elle souhaite que le ministre respecte le règlement en vigueur, le règlement de 1829. Mais là, c'est dans donc les liasses conservées de la tutelle sur le collège que l'on peut voir la suite, la réaction du ministère à cette sollicitation. Et là, c'est le personnage que l'on voit à droite, donc Stanislas Julien, on en a parlé tout à l'heure, grand sinologue, mais également administrateur du collège à cette époque, qui est l'intermédiaire avec le ministère et qui transmet au ministre cette réclamation des professeurs en soulignant le fait que, de son point de vue, il y a quand même un problème avec le règlement de 1829, dont un certain nombre de clauses ne sont plus applicables, ne correspondent plus au cadre législatif et réglementaire plus global dans lequel se situe le collège. Et donc, le mouvement est lancé pour une réforme de ce règlement de 1829. Et là, c'est un courrier du ministre de fin décembre 1856 qui demande à ce que le collège fasse une proposition pour un nouveau règlement. Nouvelle assemblée des professeurs, discussion, on nomme une commission interne avec, là encore, un scénario de cette assemblée qui permet de prendre un peu la mesure de l'ambiance autour de cette révision du règlement, c'est que l'administrateur fait remarquer à cette occasion que l'administrateur doit participer habituellement aux commissions qui sont formées dans le sein du collège. Ce à quoi ses collègues lui répondent que puisqu'il est le représentant de l'autorité, il ne saurait avoir part objectivement à la discussion sur la révision des règlements, mais qu'au demeurant, comme il est lui-même professeur du collège, il peut se soumettre au scrutin et peut-être fera-t-il partie de la commission appelée à proposer un nouveau règlement. Le scrutin se déroule et Stanislas Julien ne fait pas partie des sélectionnés. Ils sont à gauche, les membres de la commission interne. Alors, avec Charles Lenormand, archéologue, égyptologue et numismate, Édouard de Laboulaye, juriste et homme politique, et enfin Henri-Victor Regnault, chimiste et physicien. Tous trois qui sont au collège de façon relativement récente, enfin en tout cas plus récente que Stanislas Julien ou que d'autres membres de l'Assemblée des professeurs, puisque tous ont rejoint le collège dans les années 1840. Cette commission donc lance ses travaux pour la révision du règlement, mais estime ne pas bénéficier de suffisamment de temps et ne pas vouloir prendre le risque de rédiger entièrement un nouveau règlement qui pourrait ne pas être validé par l'Assemblée. Donc ils décident de se limiter à trois principes fondateurs qu'ils font valider par l'Assemblée, à charge ensuite pour le bureau, c'est-à-dire l'administrateur, le vice-président et le secrétaire, d'assister la commission dans la rédaction complète du nouveau règlement. Et ces trois principes, que évidemment j'ai perdu, concernent la suppléance, les conditions dans lesquelles il peut y avoir un remplaçant et l'obligation de tenir 40 leçons par an. Parce que le sujet principal pour cette commission interne, c'est la question des cours. En fait, c'est très clairement dit, on n'a pas le temps de mener des travaux complets, donc le sujet principal, ce sont les cours, la façon dont les postes sont pourvus, les postes d'enseignement, toutes les questions administratives, les questions de logement, ma foi, c'est assez accessoire, on s'en remet à l'autorité du ministre qui saura bien décider. Et là, ce qui est intéressant dans les articles d'archives conservés, c'est que l'administrateur n'est pas tout à fait, voire pas du tout, d'accord avec ses collègues sur les positions qui sont prises. Et lui estime qu'il est important que le rôle du ministre soit affirmé plus précisément. Et l'un des points d'achoppement des discussions entre administrateurs et assemblée des professeurs, c'est la question des procès-verbaux. Alors ça peut paraître anecdotique, mais on le retrouvera ensuite dans le nouveau règlement en 1857, c'est que l'Assemblée nomme en son sein un secrétaire qui est chargé de rédiger les procès-verbaux. Et l'administrateur souligne que cela pose problème, car comme les assemblées se réunissent de façon peu fréquente, puisqu'on a trois assemblées ordinaires par an, le temps qu'une nouvelle assemblée valide les procès-verbaux de l'assemblée précédente, les mesures qui avaient été prises ont pu être déjà mises en œuvre ou sont caduques, et il n'a pas grand sens d'attendre la validation de l'assemblée pour transmettre le procès-verbal d'une assemblée au ministre. Ce avec quoi l'assemblée des professeurs n'est absolument pas d'accord, puisque le procès-verbal devant rendre compte de l'opinion de l'assemblée, il importe à leurs yeux que il n'y ait aucun envoi du procès-verbal au ministre sans validation par l'Assemblée des professeurs. Donc on voit là l'espèce de position intermédiaire vraiment de l'administrateur, qui est bien le représentant de l'autorité, qui est le représentant d'une volonté d'administration plus importante du collège, alors que l'Assemblée des professeurs, elle, est attachée aux façons anciennes de procéder. Alors, toutes ces discussions arrivent à leur terme en 1857 avec deux textes. Le premier en juillet qui règle la situation des suppléants, puisque là il s'agit de déterminer dans quel cas un suppléant peut être accordé à un professeur. C'est dans les cas d'infirmité, de maladie, d'âge très avancé, une suppléance peut être accordée, ou s'il y a plus de 20 ans de service, avec la précision que le traitement sera prélevé sur celui du titulaire pour la partie de cours que de leçons que le suppléant exercera. Et puis, c'est surtout le 28 octobre 1857, donc, qu'est signé le décret organique qui abroge le règlement précédent pour revenir sur le droit d'administration presque absolu de l'Assemblée des professeurs et affirmer le principe essentiel de l'autorité directe et de la responsabilité réelle de l'État. Là, le sujet principal, je le disais, c'est celui des nominations, parce que dans le rapport du ministre, cette question est très prégnante. Le problème principal, de son point de vue, c'est que l'Assemblée des professeurs nomme elle-même des enseignants, par le biais du pourvoiement des chaires vacantes, par le biais des nominations de suppléants, et que, par là même, elle retire au ministre son autorité réelle sur le choix des enseignants et du corps enseignant qui est chargé de mettre en œuvre l'instruction. Alors, le sommaire, là encore, rapidement, on le voit, il est plus structuré que celui de 1829, et surtout, ce qu'on voit, c'est l'introduction d'un titre 1 de l'administration, qui était totalement absent précédemment, et qui fait écho à ces tendances qui se sont faites jour à vouloir plus administrativement cadrer les choses. Les cours sont toujours présents. Un titre spécifique pour la présentation aux chaires vacantes, alors que dans le règlement de 1829, c'était pris dans la description des fonctions de l'Assemblée. Des clauses conclusives, les autres titres sont plus ou moins de même nature, et des clauses conclusives qui, elles aussi, étaient absentes précédemment. Alors, si on vient un peu dans le détail, avec un tableau qui vous permet de lire, si vous le voulez, les clauses, et je ne vais pas revenir en détail sur toutes, vous avez donc à gauche la structure du règlement de 1857, avec tout à droite, en plus petit, le rappel de la structure de 1829, parce que, entre les deux, vous avez ce qui est modifié, avec en vert ce qui a été maintenu, en orange ce qui est modifié, et en jaune ce qui est nouveau. Et vous voyez que, alors là, ce n'est pas très parlant encore sur cette diapo, mais vous allez voir sur les suivantes, la part de ce qui est modifié est bien entendu beaucoup plus importante que la part de ce qui est maintenu, avec toujours une même tendance qui est l'affirmation de l'autorité du ministre et la dégradation des pouvoirs de l'Assemblée. Les deux nouveaux articles portant sur l'administration, le premier, son objet est très clairement d'affirmer l'autorité directe du ministre sur le collège et ensuite de déterminer le rôle de l'administrateur en tant qu'intermédiaire entre le ministre et le collège. Et à ce titre, juste rapidement, une image, ça c'est l'une des versions du projet de règlement annoté. Et en fait, les annotations permettent de voir les articles sur lesquels porte le plus la réécriture. Et là, c'est le rôle de l'administrateur, vous voyez, qui fait l'objet de ce grand développement et de ces nombreuses ratures. Et on le reverra tout à l'heure avec la question des remplaçants et des suppléants. Ce sont vraiment les deux sujets principaux, l'autorité du ministre et les remplaçants et les suppléants. Ici, alors vous voyez dans ce qui est modifié, pour les semestres, la définition des semestres et du programme, on est sur des clauses équivalentes à celles du règlement de 1829, mais désormais, pour la publication du programme des leçons, il y a autorisation préalable du ministre. De la même façon, pour l'article 9, les troubles dans l'enseignement, précédemment, c'était l'Assemblée qui examinait les troubles et qui pouvait décider ou pas d'en référer aux autorités. Désormais, l'administrateur soumet directement les affaires au ministre qui décide après avoir pris l'avis de l'Assemblée. Alors, vous voyez que sur la suite du règlement, c'est encore pire. Là, il n'y a plus rien qui est conservé. Tout est soit modifié, soit nouveau. Et les modifications vont, là encore, toujours dans le même sens. La présentation aux chaires vacantes, donc là, il y a des modifications sur la façon dont les discussions se passent. Dans le règlement de 1829, les discussions sur les titres des candidats prennent autant de temps que nécessaire. L'Assemblée peut se reconvoquer autant de fois que nécessaire pour discuter avant de passer au scrutin. En 1857, on prévoit qu'il y aura deux séances maximum de discussion, après quoi il faudra passer au scrutin. Également la question de la majorité. Alors là, c'est un cas dans lequel l'administrateur n'a pas obtenu de gain de cause, puisqu'il mettait en avant la difficulté liée à la prise en compte des bulletins blancs. Et il demandait donc au ministre de prévoir que le choix des candidats pour une vacance de chaire se fasse à la majorité des présents uniquement, et des présents ayant exprimé un vote. Et ce n'est pas retenu, on reste bien sur la majorité des présents. Sur quoi d'autre ? Enfin, vous le voyez, tout va dans le sens de autorisation et nomination par le ministre pour les remplaçants, nomination par le ministre pour les suppléants, nomination par le ministre pour les professeurs honoraires. Et là, vous voyez, je vous en parlais, c'est l'autre article. Là, on est dans la partie sur les remplaçants et les suppléants qui provoque nombre de repentirs pour arriver à la version finale, qui est une version qui affirme l'autorité du ministre face à l'Assemblée. Enfin, là, on est sur les derniers articles du règlement, avec la composition de l'Assemblée, qui est constituée des seuls professeurs titulaires. Là encore, l'administrateur n'a pas obtenu gain de cause parce qu'il souhaitait que le secrétaire d'administration puisse assister aux assemblées, précisément pour régler cette question du procès-verbal. C'est-à-dire que comme les professeurs disent « on ne peut pas envoyer le procès-verbal au ministre tant qu'on ne l'a pas validé », l'administrateur répond « oui, mais on ne peut pas le valider tant qu'on n'a pas une rédaction propre ». Et la rédaction propre, elle est difficile à faire puisque le secrétaire d'administration n'assiste pas aux assemblées et que c'est le secrétaire de l'assemblée qui prend des notes informes sur lesquelles il est très difficile de faire une version finale, etc. Mais en la matière, il n'obtient pas gain de cause. Le rôle du secrétaire d'assemblée est maintenu. L'absence du secrétaire d'administration aux assemblées est maintenue. dans le règlement. Parce qu'en fait, très rapidement derrière, quand le ministre renvoie la version finale du règlement approuvée à l'administrateur, il l'accompagne d'un courrier lui disant « Bon, vous verrez que le secrétaire d'administration n'assiste pas aux assemblées, mais je vous autorise à lui faire assister si vous le souhaitez, de façon à faciliter les travaux de l'Assemblée. » Donc, officiellement, il n'est pas suivi, mais officieusement, la question de l'efficacité administrative se pose quand même, qu'on retrouve également ici, vous voyez, dans l'article 20, qui prévoit qu'il y aura un envoi des procès-verbaux au ministre sous huitaine, sauf urgence, et là, on pourra envoyer encore plus vite. Enfin, les trois articles 21, 22, 23 nous permettent là de faire le lien avec la question de la bibliothèque, puisque jusqu'à présent, on a vu assez peu hein, de lien avec ce qui se passe en 1858 à la Bibliothèque de France. La question du catalogue intervient là dans le règlement de 1857. La bibliothèque, les archives sont désormais placées sous l'autorité de l'administrateur et il faudra tenir un catalogue mis à jour annuellement avec un procès-verbal de mise à jour qui sera lui aussi envoyé au ministre et avec un double du catalogue ou de l'inventaire qui est remis au ministre. Enfin, pour les logements, comme de toute façon l'Assemblée là s'était déchargée d'une certaine façon des décisions, le règlement va dans le même sens, c'est bien le ministre qui décidera de ce qui se passe. Très rapidement pour conclure, donc, qu'en est-il derrière de la mise en œuvre, puisque là, c'est quand même un changement très important dans la vie du collège. Précédemment, il y a une autonomie de gestion très importante de la part de l'Assemblée des professeurs. Et à partir de 1857, cette affirmation du rôle du ministre dans quasiment toutes les nominations, cette affirmation du passage d'abord par le ministre avant qu'il ne prenne l'avis de l'Assemblée, alors que précédemment, l'Assemblée pouvait décider seule d'un grand nombre de choses. Et puis cette tendance, par ailleurs, qu'on voit à l'œuvre de renforcement de l'administration, de renforcement des contrôles, c'est aussi à ça que sert le procès-verbal annuel de mise à jour des inventaires, c'est qu'il y a un contrôle beaucoup plus important qui est mis en place. La mise en œuvre, en fait, telle qu'on la voit ensuite dans les assemblées suivantes, se passe relativement conformément à ce qui est prévu, si ce n'est, là, je voulais indiquer, le secrétariat des assemblées, c'est ce que j'évoquais, en fait. Il y a quelque chose qui est prévu dans le règlement, mais en réalité, le ministre donne l'autorisation de faire autrement. Pour les nominations et les leçons, tout ce qu'on voit dans les assemblées suivantes, c'est effectivement le respect des règles mises en place dans le règlement de 1857, soit pour la nomination aux chaires vacantes, soit pour la création de nouvelles chaires, soit un petit peu, mais ce n'est pas présent dans le règlement de 1857, même la modification de l'intitulé des chaires. Et là, ça nous ramène à la pérennité de ce règlement de 1857, qui en fait ne survit pas à la fin du Second Empire. Et dès juillet 1871, il y a une demande, cette fois-ci du collège, de révision du règlement, avec le nouveau règlement qui intervient en 1873, qui a été présenté notamment par Renan comme un retour à l'état antérieur, un retour à ce que le collège était et à la gloire, d'une certaine façon, du collège. C'est en grande partie vrai, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clauses antérieures qui sont réintroduites, mais pour autant, on sent bien qu'il y a un point de bascule qui a été atteint et l'autorité du ministre n'est pas remise en cause. L'Assemblée des professeurs retrouve un droit de nomination, un droit d'avis en première instance important, mais le rôle du ministre, même après cette nouvelle révision en 1873, est beaucoup plus important qu'il n'était antérieurement au règlement de 1857. Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup Cécile pour cette communication éclairante dont évidemment on a envie de poursuivre maintenant la comparaison sur cette évolution des relations entre les établissements et le ministre au XIXe siècle. Je pense aussi beaucoup à ce qu'a été la révision de ce qu'était le rôle des collèges des conservateurs au musée du Louvre aussi. Hein. On a vraiment des glissements qui, à mon avis, peuvent être utilement repérés. Et vous nous donnez envie de lire tous les procès-verbaux de l'Assemblée des professeurs, comme de toutes ces institutions, ces assemblées de gouvernance. Je vais maintenant passer la parole à Marie de Sévrac. Marie de Sévrac est conservatrice à la Bibliothèque nationale, à la direction des collections, et elle a consacré sa thèse à l'administration de la bibliothèque sous le Second Empire. Donc elle est effectivement fort bien placée pour nous parler de la question des règlements à cette époque.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je rejoins mes collègues de la Bibliothèque nationale de France et des Archives nationales pour dire combien je suis heureuse et honorée de participer aujourd'hui à cette journée d'études. Et je remercie également beaucoup les organisateurs Philippe Chevalier et Céline Surprenant. Mon intervention cet après-midi s'attachera à étudier un texte réglementaire qui représente un véritable tournant dans l'histoire de la Bibliothèque nationale, le décret impérial du 14 juillet 1858. Donc les sources sur lesquelles je m'appuie pour cette communication sont principalement les archives modernes, procès-verbaux du comité consultatif et correspondance générale de l'administrateur conservés au département des manuscrits de la BNF, et également la sous-série F17 des archives nationales qui correspond au versement du ministère de l'Instruction publique et des cultes, ministère de tutelle de la bibliothèque pendant la période. Afin de bien comprendre la rupture qui s'opère en 1858, ce tournant de 1858, il importe de recontextualiser notre propos et de revenir rapidement sur l'histoire de la Bibliothèque nationale au cours du XIXe siècle. On ne saurait assez répéter pour commencer combien la Révolution française contribue à désorganiser la bibliothèque, alors tout juste nationale. Certes, la période correspond à un formidable enrichissement des collections, mais cet afflux massif de livres et de manuscrits précieux provenant de la confiscation des biens d'ecclésiastiques et d'émigrés n'est suivi de la rédaction d'aucun instrument de recherche. On a coutume de dire alors que c'est la mémoire du directeur Joseph Van Praat qui fait office de catalogue. C'est ce dernier, en effet, bibliophile passionné, qui arpente les dépôts littéraires où ont été entassés les livres et les manuscrits précieux confisqués par les révolutionnaires aux ecclésiastiques et aux émigrés. C'est lui qui s'occupe de leur transfert à la bibliothèque, où ses collections sont entreposées dans des combles parfois vétustes et bientôt pleins à craquer. Ce fonds non inventorié s'accroît encore avec les entrées du dépôt légal, les dons et les acquisitions, contribuant à désorganiser une institution qui ne compte alors qu'un personnel peu disponible et peu qualifié. Rappelons qu'alors le métier de bibliothécaire n'est pas encore clairement établi. Les conservateurs comme les employés n'ont pas de formation spécifique et cumulent bien souvent les fonctions ou les métiers. Il est courant que des journalistes, des écrivains, des plumitifs, pour reprendre l'expression du temps, aient également un emploi de bibliothécaire. Retenons donc que tout au long de la première moitié du XIXe siècle, la Bibliothèque nationale ne sait pas exactement ce qu'elle possède, faute de catalogue tenu à jour, et peine à assurer un service public de qualité à ses lecteurs. L'institution fait alors l'objet de nombreuses critiques. Ces critiques portent sur son organisation intérieure et sur son aspect extérieur. Son organisation intérieure d'abord. En 1832, Royer Collard, chef de la division des sciences et lettres au ministère de l'Instruction publique, ministère de tutelle de la bibliothèque donc, parle dans un rapport qu'il rédige sur la bibliothèque de la vétusté d'une institution qui a dégénéré, pour ainsi dire, en machine toute montée, allant toute seule depuis longtemps. Paresse, insouciance des employés, esprit de routine, défaut d'ordre, soit dans la conservation et l'entretien du dépôt, soit dans l'économie et le contrôle des dépenses, irrégularité de service, abus du prêt des livres, abus de logement trop souvent réservé à la parenté, et surtout, ce qui est la plaie essentielle, la plaie toujours croissante de la bibliothèque, point de catalogue. Les critiques de l'époque portent également sur la vétusté des locaux qui réclament des travaux. En 1833, Aimé Champollion-Figeac déclare « Les bâtiments ont à l'extérieur l'aspect le plus triste et sont dénués de toute élégance. On les prendrait plutôt pour une maison de correction que pour une bibliothèque. » Certains architectes prônent même un déménagement et une installation dans un autre quartier de Paris. Toutes ces critiques se retrouvent dans le poème que composent les bibliothécaires Pilon et Demanne en 1848 et qui s'intitule « Plainte de la Bibliothèque nationale au peuple français et à ses représentants », un poème numérisé dans Gallica. La parole est alors donnée à l'institution qui s'exprime à la première personne du singulier et le poème s'ouvre ainsi « J'ai peu de confidents de toutes mes douleurs, apprenez donc de moi mes périls, mes malheurs ». Plus loin est abordée la question du déménagement. Je cite « Les cruels, ils ont dit dans leur rage ignorante, éloignons du quartier cette vieille impuissante qui, dans ces lieux brillants par le luxe embelli, étale sa masure au milieu de Paris. » Donc, pour remédier à cette situation critique, des commissions sont nommées sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Cependant, leurs réflexions théoriques demeurent lettre morte dans un contexte de profonde instabilité politique. Il faut attendre le Second Empire, régime autoritaire, centralisé, désireux de prouver sa légitimité en Europe pour voir les choses changer. La réorganisation de la bibliothèque impériale devient à cette époque un enjeu national et international qui s'inscrit dans un contexte d'émulation culturelle entre États que contribuent à symboliser par exemple les expositions universelles. La bibliothèque impériale doit être la vitrine culturelle de l'Empire et à ce titre, elle doit pouvoir rivaliser avec le modèle bibliothéconomique de l'époque, le British Museum de Londres, qui vient tout juste d'achever sa réorganisation. Une nouvelle salle de lecture circulaire, œuvre de l'architecte Sydney Smirke, vient d'être achevée et suscite l'admiration de tous. De nombreux procédés nouveaux, portant aussi bien sur les méthodes de catalogage que sur le transport des livres, ont également été introduits au British Museum, qui est alors, rappelons-le, à la fois bibliothèque et musée, et cela suscite bien sûr l'admiration. Un grand écrivain et savant français se fait l'écho de cette réorganisation anglaise. Il s'agit de Prosper Mérimée, écrivain, inspecteur des monuments historiques et familier du couple impérial. Mérimée connaît parfaitement le British Museum grâce à la correspondance qu'il entretient avec le directeur de l'institution qui est également l'un de ses amis, Antonio Panizzi. Mérimée se rend à Londres en mai 1857 au moment de l'ouverture de la vaste salle de lecture circulaire du British Museum. De retour en France, il écrit un article sur le sujet qui paraît le 26 août 1857 dans les colonnes du Moniteur universel. À Paris, les contemporains ne connaissent pas ou peu les grandes réformes entreprises à Londres. Mérimée contribue à les leur faire découvrir et acquiert ce faisant la réputation de savant français le plus au fait des questions bibliothéconomiques. C'est ce savoir qui lui vaut d'être nommé à la tête d'une importante commission de réorganisation de la bibliothèque dès décembre 1857. Cette commission, donc la commission Mérimée, comme on l'appelle, qui se réunit de janvier à mars 1858, se distingue des précédentes par sa volonté d'étudier les problèmes de toute nature que connaît la bibliothèque. Il ne s'agit pas simplement d'aborder une question, mais véritablement d'aborder tous les problèmes dans leur ensemble et de proposer des solutions à appliquer au plus vite. La composition de la commission peut sembler assez originale. Conformément à la volonté de l'empereur, aucun membre du personnel de la bibliothèque n'y figure dans un souci d'impartialité. Y siègent en revanche des représentants du milieu militaire, le général Nelzire Allard par exemple, du milieu juridique, comme le procureur Gustave Chey d'Estanges, ainsi que des érudits, comme le numismate Félicien de Saucy, des conservateurs à la retraite ou en poste dans d'autres institutions, comme Adrien de Lomperrier, ancien conservateur de la Bibliothèque nationale, alors en poste au Louvre. Notons aussi la présence dans cette commission du directeur des archives de l'Empire, Léon de Laborde. Toutes ces personnalités qui appartiennent à des milieux professionnels différents ont cependant des points communs. Elles ont en commun d'être de fidèles soutiens du pouvoir impérial, d'avoir siégé dans les assemblées représentatives du pays, donc d'avoir été député à un moment ou à un autre, d'être parvenu à un point culminant de leur carrière, ou en tout cas de faire l'actualité. Le général Nelzire Allard vient tout juste d'être nommé général, Gustave Chey d'Estanges soutient à ce moment-là un procès très important qui fait l'actualité, etc. Et ces personnes ont également en commun le plus souvent d'être décorées de la Légion d'honneur. La commission se réunit du 14 janvier au 8 mars 1858 sous la présidence de Mérimée, qui est également chargée de rédiger le rapport final à l'issue des débats. Les sujets abordés sont nombreux et font l'objet de longues discussions. Parmi les plus importants figurent donc ceux que j'ai énumérés également sur la diapositive. Dans un premier temps, l'administration de la bibliothèque. Et la question posée est la suivante. Doit-elle continuer à être collégiale ou doit-elle être confiée à un unique directeur ? Le fonctionnement d'alors est collégial, confié à l'ensemble des conservateurs réunis en conservatoire. Il était à l'origine plus ou moins calqué sur le fonctionnement du directoire. Faut-il maintenir ce fonctionnement ou faut-il nommer un administrateur général unique ? Deuxième question, le bien fondé de la présence de certaines collections à la bibliothèque impériale. Les estampes ont-elles leur place à la bibliothèque impériale ? Ne devraient-elles pas rejoindre les collections du Louvre ? De la même façon, les monnaies et médailles ne devraient-elles pas rejoindre la monnaie de Paris ? Les objets que conserve la bibliothèque ne devraient-ils pas revenir au musée ? Il y a là toute une réflexion sur le bien fondé de la répartition des collections entre institutions et l'idée, appelée à évoluer, que les documents ou objets de même nature devraient peut-être être rassemblés au même endroit. Troisième question, le système à retenir pour les catalogues. Faut-il retenir un système alphabétique ou méthodique ? Le British Museum a adopté un système alphabétique par nom d'auteur pour son catalogue. À la Bibliothèque impériale, Jules-Antoine Taschereau, directeur adjoint spécialement chargé des catalogues depuis 1852, est un fervent partisan du système méthodique, c'est-à-dire d'un système par sujet, par matière, qu'il a commencé à appliquer pour le catalogue des sciences médicales et le titanesque catalogue de l'histoire de France. La question est, faut-il persévérer dans cette voie, catalogue méthodique, par sujet, par matière, ou faut-il adopter le système alphabétique comme l'a fait le British Museum ? Quatrième question, la question du personnel et notamment de sa qualification. Quelles sont les conditions requises pour être engagé à la bibliothèque ? Comment lutter contre les sinécures et le cumul des fonctions ? Autre question, l'ouverture ou non de deux salles de lecture au département des imprimés, c'est-à-dire le département le plus fréquenté. Faut-il, à la place de la salle de lecture unique du département des imprimés, établir deux salles, une salle réservée aux savants, aux travailleurs sérieux, pour reprendre l'expression du temps, et une autre salle ouverte à tout venant, je cite. L'objectif est surtout de lutter alors contre la présence, je cite, de l'oisiveté lisailleuse, expression qui désigne l'attitude du passant ou du vagabond qui ne vient à la Bibliothèque nationale que pour se chauffer ou pour lire le journal et qui gêne les travailleurs sérieux. Enfin, la question des bâtiments, de leur rénovation, de leur reconstruction. Cette question est un temps abordée dans sa globalité, visite des lieux avec l'architecte de la bibliothèque Henri Labrouste, étude d'un plan que l'architecte présente à la commission, puis cette question est délaissée car jugée finalement comme n'étant pas du ressort de la commission. On prône cependant l'achat des maisons situées à l'angle des rues Colbert et Vivienne, qui sont occupées par un épurateur d'huile, un marchand de bois et charbon, puis par un hôtel. Donc rappelons qu'à l'époque, la bibliothèque n'est pas encore un quadrilatère autonome, comme on le connaît aujourd'hui, qu'il y a encore des maisons particulières qui se situent à l'angle des rues Colbert et Vivienne, qui ont des murs mitoyens avec la bibliothèque impériale, et cela constitue un vrai péril d'incendie qui fait vraiment frémir les conservateurs et l'administrateur. Et plus tard, sous l'administration de Jules-Antoine Taschereau, il y aura donc des demandes régulières pour parvenir à acheter ces maisons particulières qui sont de vraies menaces d'incendie. Et l'administrateur, à court d'arguments, va même, dans sa correspondance, imaginer le pire des scénarios. Donc il écrit comme ça à son ministre de tutelle, le ministre de l'Instruction publique et des cultes, imaginer que dans cet hôtel, entre la rue Colbert et la rue Vivienne, un voyageur fatigué par son périple se met au lit avec un roman de Paul de Kock, donc auteur populaire de la période, puis s'endort, sa chandelle tombe, il met le feu à sa chambre, à l'hôtel, le feu ensuite vient jusqu'à la bibliothèque et finalement les chefs-d'œuvre de la littérature française etc., auraient brûlé par la faute d'un lecteur de Paul de Kock. Donc voilà jusqu'où va l'administrateur pour essayer donc d'obtenir l'achat de ces maisons qui représentent un vrai péril. Le rapport que remet Mérimée au ministre de l'Instruction publique et des cultes Gustave Roulan à l'issue des débats de la commission le 27 mars 1858 reprend les décisions votées par la commission à l'issue de ces 3 mois de travail. Ce rapport est ensuite relu et amendé par le ministre lui-même et transmis à l'empereur. Et ce rapport influence grandement, c'est pourquoi je m'y suis arrêtée si longuement, le décret du 14 juillet 1858 qui lance officiellement la réorganisation de la bibliothèque. Parcourons à présent ce décret dans ses articles clés, puisque comme il est assez long, on ne va pas tous les étudier, mais dans ses articles clés. Donc, article 1er, l'administration et la direction de la bibliothèque impériale et de tous les départements qui la composent sont confiés à un administrateur général placé sous l'autorité de notre ministre de l'Instruction publique et des cultes. On précise dans l'article 2 que ce directeur doit résider à la bibliothèque et qu'il ne peut quitter Paris sans autorisation du ministre. Cet article 1er instaure donc un nouveau mode d'administration extrêmement centralisé à la bibliothèque, calqué sur le modèle politique en place, le Second Empire autoritaire. Cela conforte la réflexion du philosophe Robert Damien qui parle de la bibliothèque comme d'une métaphore de l'État. Un nouvel administrateur, Jules-Antoine Taschereau, ancien journaliste, autrefois directeur d'une très polémique revue rétrospective qui, sous couvert de dénoncer des scandales anciens, s'en prenait beaucoup aux hommes politiques contemporains. Donc Jules-Antoine Taschereau, ancien député également et surtout soutien de la première heure du régime impérial, est nommé à la tête de la bibliothèque en 1858. C'est lui qui devient cet administrateur général, directeur unique, qui est placé à la tête de la bibliothèque. Nous avons vu qu'il était déjà en place dans l'établissement depuis 1852 comme adjoint du directeur Joseph Naudet, spécialement chargé des catalogues. Cette nomination est importante parce qu'elle rompt avec la tradition qui consiste à placer un membre de l'Institut ou un professeur au Collège de France, comme l'était Joseph Naudet, à la tête de l'institution. On rompt avec cette tradition, mais en même temps cette décision correspond à la volonté de Napoléon III de nommer, pour reprendre l'expression, des hommes pratiques. Taschereau est en effet une forte personnalité qui impose son mode d'administration autoritaire jusqu'à son départ en 1874. Il est entouré d'un comité consultatif, dont l'article 13 du décret parle davantage, mais dans les faits, c'est surtout lui qui dispose de vrais pouvoirs décisionnaires. Tout passe par lui, jusqu'à l'examen quotidien des bulletins de demande de livres n'ayant pu aboutir, afin de relancer au besoin les recherches. Autre article très important, l'article 3 de ce décret. La bibliothèque impériale est divisée en quatre départements, savoir les livres imprimés, cartes, collections géographiques, les manuscrits, chartes et diplômes, les médailles, pierres gravées et antiques, les estampes. Cet article entend mettre un terme au débat concernant les transferts de collections qui avaient agité la commission Mérimée. Il rompt avec l'idée selon laquelle les collections de même nature doivent être conservées au même endroit. Il n'y aura pas de démantèlement de département à la bibliothèque. Les estampes ne rejoindront pas le Louvre et les monnaies et médailles ne prendront pas le chemin des musées. Les chartes et diplômes resteront également au département des manuscrits. Ce dernier point, cependant, est appelé à être contesté par les archives impériales et leur directeur, Léon de Laborde, qui était membre de la commission Mérimée, comme nous l'avons vu. Ce désaccord sera à l'origine, en 1861, donc quelques années plus tard, d'une commission chargée d'examiner les modifications à apporter à la composition de la bibliothèque impériale et des archives de l'Empire. Et il y aura des transferts de collections entre les deux institutions à ce moment-là, en 1861, suite aux travaux de cette commission spécifique. Autre article, c'est très important, l'article 6. Aussitôt que le permettront les travaux de construction entrepris à la bibliothèque, deux salles seront ouvertes au département des imprimés, l'une pour la lecture, l'autre pour les travailleurs autorisés. Cet article 6 est fondamental, il constitue en lui-même un tournant, puisque pour la première fois, une scission des lectorats est instaurée à la bibliothèque. Ces deux salles ne vont ouvrir que 10 ans plus tard, en 1868, en juin 1868, au département des imprimés. L'une est construite par Henri Labrouste et elle est réservée aux savants, aux travailleurs sérieux qui n'y ont accès que sur autorisation. Et l'autre est ouverte à tout venant, même le dimanche, et elle se situe dans les locaux de l'ancienne salle de lecture unique des imprimés. Donc pas de nouveau local pour cette salle. On accède à ces deux salles par des entrées distinctes, entrée par la rue de Richelieu pour les travailleurs autorisés, entrée par le numéro 3 de la rue Colbert pour les lecteurs de la salle publique. Pourquoi cette scission ? Dans l'esprit des membres de la commission Mérimée, comme dans celui de la plupart des conservateurs de la bibliothèque, cette mesure semble prise surtout pour favoriser les travaux des savants, en les libérant de la gênante et bruyante présence des lecteurs. Rappelons-nous de ce leitmotiv beaucoup véhiculé par la presse et par l'opinion du dilettante qui ne vient à la bibliothèque que pour se chauffer, pour lire le journal. Mais dans l'esprit des ministres de l'instruction publique, Gustave Roulant d'abord, puis Victor Duruy, cette scission correspond à tout autre chose. Elle témoigne de la volonté de faire participer la bibliothèque impériale au formidable élan de lecture populaire qui conduit à la création de tant de bibliothèques d'ouvriers ou d'associations à cette époque. Citons par exemple la bibliothèque des Amis de l'Instruction dans le 3e arrondissement de Paris, qui a été créée dans ce contexte et qui existe encore. L'ouverture le dimanche qui est retenue est caractéristique d'un projet de lecture populaire et il est précisé dans la correspondance entre l'administrateur et son ministre de tutelle que cette salle est destinée au tout venant et plus particulièrement, je cite, « à l'artisan, à l'ouvrier désireux d'approfondir les connaissances de son métier, au curieux désireux de s'instruire ». Dans les faits, cette salle ne rencontrera pas vraiment son public et servira surtout aux étudiants à la fin du XIXe siècle. Cette séparation d'électorat est, comme il fallait s'y attendre, très mal vécue par ceux qui se voient refuser l'entrée de la grande, belle et toute nouvelle salle de travail construite par Henri Labrouste. Il faut, en vérité, pour pouvoir accéder à la salle réservée aux travailleurs sérieux, écrire une lettre de demande argumentée. Et si cette lettre contient trop de fautes d'orthographe, il est courant que l'administration réponde à la personne qui l'a envoyée de se diriger vers la salle publique où tous les dictionnaires et les manuels de grammaire sont à sa disposition pour améliorer son orthographe. Et il faut également que dans sa lettre, le demandeur montre qu'il fait partie de la société des gens de lettres ou qu'il soit reconnu en fait comme auteur, comme ayant publié. Donc ce sont des arguments qu'il faut avancer pour obtenir donc sa carte pour la salle, la grande salle, donc je vous mets sur la diapositive, Labrouste, qui ouvre donc en juin 1868. Et donc les personnes qui vont dans la salle publique de lecture le vivent parfois assez mal, et cette salle prend alors le nom de salle B, comme s'il s'agissait d'un second choix. Elle prend l'allure d'une salle des refusés, en quelque sorte. La scission participe également au discrédit progressif qui s'abat sur Taschereau et sur le comité consultatif, qui sont accusés de partialité lorsqu'ils délivrent les autorisations pour la salle de travail. Les lettres peu amènes pleuvent à la bibliothèque, et le discrédit de l'administrateur s'aggrave encore, en même temps que le Second Empire libéral connaît de plus en plus de difficultés. Étroitement associé au régime impérial depuis sa nomination à la tête de la bibliothèque, Taschereau se retrouve englobé dans les critiques que l'opposition à la fin des années 1860 adresse à Napoléon III. Un lecteur furieux en vient même à écrire dans une lettre de réclamation « tel maître, tel valet » pour désigner l'empereur et Taschereau. Les articles suivants du décret, les articles 7 à 12, abordent surtout la question de la professionnalisation progressive du métier de bibliothécaire. Un diplôme de bachelier S-lettres ou S-sciences est désormais un préalable requis pour entrer à la bibliothèque, de même que l'obligation de se consacrer à son emploi sans cumul de fonctions. L'avancement dans la profession ne peut se faire que par étapes, de manière progressive. Chacun commence par le grade d'employé avant d'avancer dans la hiérarchie. C'est un mode d'administration qui correspond parfaitement à l'administrateur Taschereau, qui cherchera toujours à ménager une saine émulation entre les employés de la bibliothèque et à les faire avancer en valorisant l'expérience acquise. Enfin, l'article 15 aborde de manière rapide mais très claire la question des catalogues à la bibliothèque. Il invite l'administration à abandonner, au moins momentanément, le système méthodique pour adopter une solution pragmatique, pour parer au plus pressé, en dressant un inventaire, dans un premier temps, qui permettrait de savoir exactement ce que possède l'établissement, et donc afin de pouvoir satisfaire plus efficacement les demandes des lecteurs. Taschereau ne tiendra cependant pas compte de cet avis. Fervent partisan du système méthodique adopté pour le catalogue des sciences médicales, puis pour celui de l'histoire de France, alors en cours, rien, pas même le décret, puis plus tard les rappels réguliers de son ministre de tutelle ne vont le faire dévier de sa route, et ce n'est que sous l'administration suivante que sera adopté le système alphabétique. Donc je voulais simplement aussi dans les diapositives montrer rapidement l'architecte Henri Labrouste, mais quelques dessins et gravures en fait représentant les habitués, les lecteurs de la salle de lecture unique du département des imprimés, donc avant 1868, avant la scission d'électorat en fait, lorsqu'il n'y avait qu'une seule salle de lecture, et donc il y avait aussi bien voilà des savants que d'autres lecteurs. C'est très parlant également dans cette gravure d'Honoré Daumier, où on voit effectivement la cohabitation des différents lectorats dans cette salle de lecture unique, avant l'ouverture des deux salles en 1868. Donc pour conclure, le décret du 14 juillet 1858 constitue donc un tournant dans l'histoire de la Bibliothèque nationale, car en effet, pour la première fois, le travail théorique d'une commission, laquelle se distingue des précédentes par sa volonté de traiter les problèmes dans leur ensemble, est appelé à aboutir grâce au plus haut soutien de l'État, celui de l'empereur lui-même. Le souverain prouve son intérêt et son engagement en promulguant un texte aussi important sur un plan législatif qu'un décret. Ce document officiel a de plus la particularité d'aborder des points essentiels de l'organisation de l'établissement et de proposer des solutions innovantes qui créent une rupture avec le fonctionnement antérieur. C'est donc une véritable réorganisation qui se trouve ainsi lancée, dont la bonne marche est confiée à deux personnes, au nouvel administrateur Jules-Antoine Taschereau pour toutes les questions intérieures et à l'architecte Henri Labrouste, reconduit dans ses fonctions pour les aspects de rénovation et de reconstruction extérieure. C'est cette équipe, ce sont ces deux personnages qui pourtant ne s'entendaient pas du tout, qui vont entreprendre la réorganisation de la bibliothèque sous le Second Empire. Je vous remercie de votre attention.